13. Théorie pratique. Partisans de la liberté des échanges, on nous accuse d'être des théoriciens, de ne pas tenir assez compte de la pratique. Quel terrible préjugé contre M. C, dit M. Ferrier, que cette longue suite d'administrateurs distingués, que cette ligue imposante d'écrivains qui tous ont vu autrement que lui, et M. C ne le dissimule pas. Écoutons-le, on a dit à l'appui des vieilles erreurs qu'il faut bien qu'il y ait quelques fondements à des idées si généralement adoptées par toutes les nations. Ne doit-on pas se défier d'observations et de raisonnements qui renversent ce qui a été tenu pour constant jusqu'à ce jour, ce qui a été tenu pour certains par tant de personnages que rendaient recommandables leurs lumières et leurs intentions ? Cet argument, je l'avoue, est digne de faire une profonde impression et pourrait jeter du doute sur les points les plus incontestables si l'on avait vu tour à tour les opinions les plus fausses et que maintenant on reconnaît généralement pour telles, reçues et professées par tout le monde pendant une longue suite de siècles. Il n'y a pas encore bien longtemps que toutes les nations, depuis la plus grossière jusqu'à la plus éclairée, et que tous les hommes, depuis le portefeuille jusqu'au philosophe le plus savant, admettaient quatre éléments. Personne n'eût songé à contester cette doctrine qui pourtant est fausse, tellement qu'aujourd'hui il n'y a pas d'aide naturaliste qui ne se décriât s'il regardait la terre, l'eau et le feu comme des éléments. Sur quoi M. Ferrier fait cette observation ?
Si M. C croit répondre ainsi à l'objection très forte qu'il s'est proposée, il s'abuse étrangement. Que des hommes d'ailleurs très éclairés se soient trompés pendant plusieurs siècles sur un point quelconque d'histoire naturelle, cela se comprend et ne prouve rien. L'eau, l'air, la terre et le feu, éléments ou non, en étaient-ils moins utiles à l'homme ? Ces erreurs-là sont sans conséquence, elles n'amènent pas de bouleversement, ne jettent pas de malaise dans les esprits, elles ne blessent surtout aucun intérêt, raison pour laquelle elles pourraient sans inconvénient durer des milliers d'années. Le monde physique marche donc comme si elle n'existait pas. Mais en peut-il être ainsi des erreurs qui attaquent le monde moral ? Conçoit-on qu'un système d'administration qui serait absolument faux, dommageable par conséquent, pût être suivi pendant plusieurs siècles et chez plusieurs peuples avec l'assentiment général de tous les hommes instruits ? Expliquera-t-on comment un tel système pourrait se lier avec la prospérité toujours croissante des nations ? Monsieur C avoue que l'argument qu'il combat est digne de faire une impression profonde. Oui, certes, et cette impression reste, car Monsieur C l'a plutôt augmentée que détruite. Écoutons M. de Saint-Chamond. Ce n'est guère qu'au milieu du dernier siècle, de ce 18e siècle où toutes les matières, tous les principes sans exception furent livrés à la discussion des écrivains, que ces fournisseurs d'idées spéculatives appliquées à tout sans être applicables à rien commencèrent à écrire sur l'économie politique. Il existait auparavant un système d'économie politique non écrit, mais pratiqué par les gouvernements. Colbert, dit-on, en était l'inventeur. Et il était la règle de tous les États de l'Europe. Ce qu'il a de plus singulier, c'est qu'il l'est encore, malgré les anathèmes et le mépris, malgré les découvertes de l'école moderne. Ce système, que nos écrivains ont nommé le système mercantile, consistait à contrarier par des prohibitions ou des droits d'entrée les productions étrangères qui pouvaient ruiner nos manufactures par leur concurrence. Ce système a été déclaré inepte, absurde, propre à appauvrir tout pays par les écrivains économistes de toutes les écoles. Il a été banni de tous les livres, réduit à se réfugier dans la pratique de tous les peuples. Et on ne conçoit pas que pour ce qui regarde la richesse des nations, les gouvernements ne s'en soient pas rapportés aux savants auteurs, plutôt qu'à la vieille expérience d'un système, etc. On ne conçoit pas surtout que le gouvernement français s'obstine en économie politique à résister au progrès des Lumières et à conserver dans sa pratique ces vieilles erreurs que tous nos économistes de plume ont signalées. Mais en voilà trop sur ce système mercantile qui n'a pour lui que les faits et qui n'est soutenu par aucun écrivain. Ne dirait-on pas, en entendre ce langage, que les économistes, en réclamant pour chacun la libre disposition de sa propriété, ont fait sortir de leur cervelle, comme les fourriéristes, un ordre social nouveau, chimérique, étrange, une sorte de phalanstère sans précédent dans les annales du genre humain ? Il me semble que s'il y a en tout ceci quelque chose d'inventé, de contingent, ce n'est pas la liberté, mais la protection. Ce n'est pas la faculté d'échanger, mais bien la douane appliquée à bouleverser artificiellement l'ordre naturel des rémunérations. Mais il ne s'agit pas de comparer, de juger les deux systèmes. La question pour le maman est de savoir lequel des deux s'appuie sur l'expérience. Ainsi donc, messieurs les monopoleurs, vous prétendez que les faits sont pour vous, que nous n'avons de notre côté que des théories. Vous vous flattez même de cette longue série d'actes publics, cette vieille expérience de l'Europe que vous invoquez, apparue imposante à M. C., et je conviens qu'il ne vous a pas réfuté avec sa sagacité habituelle. Pour moi, je ne vous cède pas le domaine des faits, car vous n'avez pour vous que des faits exceptionnels et contraints. Et nous avons à leur opposer les faits universels, les actes libres et volontaires de tous les hommes. Que disons-nous et que dites-vous? Nous disons, il vaut mieux acheter à autrui ce qu'il en coûte plus cher de faire soi-même. Et vous, vous dites, il vaut mieux faire les choses soi-même encore qu'il en coûte moins cher de les acheter à autrui. Or, monsieur, laissant de côté la théorie, la démonstration, le raisonnement, toutes choses qui paraissent vous donner des nausées, quelle est celle de ces deux assertions qui a pour elle la sanction de l'universelle pratique? Visitez donc les champs, les ateliers, les usines, les magasins, regardez au-dessus, au-dessous et autour de vous, scrutez ce qui s'accomplit dans votre propre ménage, observez vos propres actes de tous les instants et dites quel est le principe qui dirige ces laboureurs, ces ouvriers, ces entrepreneurs, ces marchands. Dites quelle est votre pratique personnelle. Est-ce que l'agriculteur fait ses habits? Est-ce que le tailleur produit le grain qu'il consomme? Est-ce que votre ménagère ne cesse pas de faire le pain à la maison aussitôt qu'elle trouve économie à l'acheter au boulanger? Est-ce que vous quittez la prime pour la brosse afin de ne pas payer tribut aux décrotteurs? Est-ce que l'économie tout entière de la société ne repose pas sur la séparation des occupations, sur la division du travail, sur l'échange en un mot? Et l'échange est-il autre chose que ce calcul qui nous fait, à tous, tant que nous sommes, discontinuer la production directe, lorsque l'acquisition indirecte nous présente épargne de temps et de peine? Vous n'êtes donc pas les hommes de la pratique, puisque vous ne pourriez pas montrer un seul homme sur toute la surface du globe qui agisse selon votre principe. Mais direz-vous, nous n'avons jamais entendu faire de notre principe la règle des relations individuelles. Nous comprenons bien que ce serait briser le lien social et forcer les hommes à vivre comme les colimaçons, chacun dans sa carapace. Nous nous bornons à prétendre qu'ils dominent de fait les relations qui se sont établies entre les agglomérations de la famille humaine. Eh bien, cette assertion est encore erronée. La famille, la commune, le canton, le département, la province sont autant d'agglomérations qui toutes, sans aucune exception, rejettent pratiquement votre principe et n'y ont même jamais songé. Toutes se procurent par voie d'échange ce qu'il leur en coûterait plus de se procurer par voie de production. Autant en feraient les peuples si vous ne l'empêchiez par la force. C'est donc nous qui sommes les hommes de pratique et d'expérience. Car pour combattre l'interdit que vous avez mis exceptionnellement sur quelques échanges internationaux, nous nous fondons sur la pratique et l'expérience de tous les individus et de toutes les agglomérations d'individus dont les actes sont volontaires et peuvent par conséquent être invoqués en témoignage. Mais vous commencez par contraindre, par empêcher. Et puis vous vous emparez d'actes forcés ou prohibés pour vous écrier « Voyez, la pratique nous justifie ». Vous vous élevez contre nos théories, et même contre la théorie en général. Mais quand vous posez un principe antagonique au nôtre, vous êtes-vous imaginé par hasard que vous ne faisiez pas de la théorie? Non, non, rayez cela de vos papiers. Vous faites de la théorie comme nous, mais il y a entre la vôtre et la nôtre cette différence. Notre théorie ne consiste qu'à observer les faits universels, les sentiments universels, les calculs, les procédés universels, et tout au plus à les classer, à les coordonner pour les mieux comprendre. Elle est si peu opposée à la pratique qu'elle n'est autre chose que la pratique expliquée. Nous regardons agir les hommes mus par l'instinct de la conservation et du progrès, et ce qu'ils font librement, volontairement, c'est cela même que nous appelons économie politique ou économie de la société. Nous allons sans cesse répétant, chaque homme est pratiquement un excellent économiste, produisant ou échangeant selon qu'il y a plus d'avantages à échanger ou à produire. Chacun, par l'expérience, s'élève à la science, ou plutôt la science n'est que cette même expérience, scrupuleusement observée et méthodiquement exposée. Mais vous faites de la théorie dans le sens défavorable du mot. Vous imaginez
Vous inventez des procédés qui ne sont sanctionnés par la pratique d'aucun homme vivant sous la voûte des cieux. Et puis vous appelez à votre aide la contrainte et la prohibition. Il faut bien que vous ayez recours à la force, puisque, voulant que les hommes produisent ce qu'il leur est plus avantageux d'acheter, vous voulez qu'ils renoncent à un avantage. Vous exigez d'eux qu'ils se conduisent d'après une doctrine qui implique contradiction, même dans ses termes. Aussi cette doctrine, qui, vous en convenez, serait absurde dans les relations individuelles, je vous défie de l'étendre même en spéculation aux transactions entre familles, communes, départements ou provinces. De votre propre aveu, elle n'est applicable qu'aux relations internationales. Et c'est pourquoi vous êtes réduit à répéter chaque jour. Les principes n'ont rien d'absolu. Ce qui est bien dans l'individu, la famille, la commune, la province, est mal dans la nation. Ce qui est en détail, savoir acheter plutôt que produire, quand l'achat est plus avantageux que la production, cela même est mauvais en masse. L'économie politique des individus n'est pas celle des peuples, et haute balivernes. Est juste dem farinae. Et tout cela pourquoi? Regardez-y de près. Pour nous prouver que nous, consommateurs, nous sommes votre propriété. Que nous vous appartenons en corps et en âme. Que vous avez sur nos estomacs et sur nos membres un droit exclusif. Qu'il vous appartient de nous nourrir et de nous vêtir à votre prix. Quelle que soit votre impéritie, votre rapacité ou l'infériorité de votre situation. Non, vous n'êtes pas les hommes de la pratique, vous êtes des hommes d'abstraction et d'extorsion.